Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de la Voix de l'Amérique à Washington. Au Sénégal, Anta Babacar Ngom est la seule femme candidate à la présidentielle sur 17 candidats. Le même scénario s'est produit notamment en 2023 en République démocratique du Congo avec Marie-Josée Ifoku et au Gabon avec Victoire Issembé Lasséni Dubose. Le monde compte 17 femmes chefs d'État sur 151 pays hors système monarchique et 19 premières ministres sur 193 pays, soit un tout petit 10%. En Guinée, où le nouveau gouvernement compte 6 femmes sur 29 ministres, des militantes réclament 50% des postes nominatifs qu'ils soient attribués donc à des femmes. Soulignant que la promesse des 30% n'a pas été tenue, elles exigent l'application de la parité sur la base démographique de leur pays, dont les femmes représentent 52% de la population. Alors pourquoi si peu de femmes à des postes électifs et nominatifs? Pourquoi la parité 50-50 n'est-elle pas encore effective dans la plupart des pays du monde? Les décisionnaires ont-ils le pouvoir ou la volonté d'accélérer les réformes de représentation équilibrée des genres en politique? Ça, c'est toutes les questions qui ont été posées à nos auditeurs et autres experts. Et nous avons justement comme invité en ligne à Dakar une Guinéenne, c'est Mariam Tendou Camara, cofondatrice du fameux GRIF, le groupe de réflexion et d'influence des femmes, qui est montée au créneau pour exiger la parité dans l'espace public guinéen. Mariam, merci beaucoup d'être avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir, Nathalie Barge, et je dis bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
C'est un plaisir de vous entendre. Alors, vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit. Voilà, on est un petit peu partout. Dans la plupart des pays, c'est 30%, on exige 30%, on y va timidement. Et vous, tout d'un coup, vous avez réalisé, quand finalement votre quota n'a pas été atteint au niveau du gouvernement, vous avez réalisé, eh ben voilà, vous avez dit, on va réclamer 50%. Alors, la question, ça sera celle-ci. Est-ce qu'on a vraiment besoin, finalement, d'une transition vers la parité, comme on le fait tout doucement, gentiment, timidement? Pourquoi pas maintenant, finalement?
Merci beaucoup pour la question. Effectivement, d'abord, nous n'avons pas réalisé à la nomination du gouvernement. Nous avons, lorsque je vous explique juste le cheminement, un 8 mars, donc la journée internationale des droits des femmes, notre nouveau premier ministre, chef de gouvernement, a annoncé aux femmes de la nation, de façon symbolique, que le prochain gouvernement allait respecter au minimum 30%. Mmh. Pour rappeler, nous sommes dans une transition politique et militaire ici en Guinée et que la charte de la transition avait déjà stipulé que il fallait respecter 30% au minimum dans les instances gouvernementales. Nous, on s'est dit, ça c'est déjà acquis. Ce n'est pas une annonce spectaculaire pour nous, puisque c'était déjà acquis dans la transition. On va demander ce qu'on pense, qui est normalement ce qu'on conçoit de la parité, c'est-à-dire 50%, parce que aussi nous représentons 52%. Voilà un peu comment le raisonnement nous a... Et nous avons finalement eu moins de 30%, moins de 50%, donc au total 20%. Mais le fait est que nous sommes convaincus qu'il est temps. Nous avons épluché les protocoles de Maputo, nous avons épluché la convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes, la CEDEF. Nous avons regardé où est-ce que ce chiffre 30% a été une base juridique, légale et de représentation paritaire pour les femmes dans les gouvernements. À ce stade encore, on n'a pas encore trouvé des éléments qui justifient tout cela. Et donc, on s'est dit, oui, il faut demander de façon décomplexée ce qui est notre dû, ce qui est notre droit. Et évidemment, qu'on puisse atterrir et avoir gain de cause, c'est toute une autre histoire. Mais il faut absolument, aujourd'hui, que les femmes, qu'elles aillent plus loin que leurs devancières et les pionnières, qu'elles demandent ce qui leur est dû.
Merci beaucoup, Mariam. Restez avec nous. On va écouter, justement, une des membres du GRIF, c'est Mabinti Souma. Elle est experte en genre.
Je pense qu'il est impératif de sensibiliser les communautés afin de changer les narratifs liés aux pesanteurs socioculturelles. Dans le contexte africain, je parlerai particulièrement de la Guinée, qui n'est pas en marge. Pour pouvoir accélérer la participation des femmes aux instances décisionnelles, on a de sérieux problèmes à ce niveau. Les gens sont réfractaires, l'idée ne passe pas. Et un autre point serait de renforcer les compétences féminines en leadership et en partant de la base ou en faisant la promotion de l'éducation de la jeune fille et en luttant contre la déscolarisation. Il serait judicieux également d'influencer les politiques nationales à travers des réseaux forts où des hommes influents et sensibles à la cause ne seront pas exclus. Il serait également nécessaire pour les femmes de se faire entendre sur toutes les questions de gouvernance. C'est nécessaire de se faire entendre, même s'il faut pour cela prendre tous les médias d'assaut.
Et voilà, c'était Mabinti Souma, donc qui est partante pour prendre tous les médias d'assaut, comme elle vient de le dire. Alors Mariam, les arguments de difficulté de recrutement de femmes pour cette transition, on va dire, des 30% qui n'est même pas atteinte dans la plupart des pays du monde, est-ce que c'est des excuses parce qu'on nous avance toujours qu'on les trouve pas, etc. Est-ce qu'on peut accepter ce type d'argument finalement?
Non, on ne peut pas, on ne peut plus en 2024 accepter ce type d'argument. On comprend très bien que dans nos pays, à la base, nous avons des taux d'échec scolaire qui sont élevés, des taux de scolarisation qui sont assez élevés pour les jeunes filles. Mais nous pensons au sommet, pour celles qui ont réussi à se hisser, pour celles qui ont réussi à les parcours de combattantes et de guerrières, il faudrait qu'on puisse justement les représenter dans les différentes sphères de décision pour qu'elles puissent elles aussi hisser d'autres et donner espoir à d'autres. C'est important et il y a beaucoup de compétences féminines à travers l'Afrique, à travers le continent.
Alors, on va écouter à présent la professeure de droit algérienne. C'est Maya Salifadel. Elle nous fait un petit exposé, finalement. Elle nous rappelle quelques textes régionaux. Voilà, on comprendra pourquoi, donc, elle est professeure de droit.
Il y a également le cadre africain. C'est celui qui nous intéresse. Alors là, je reviendrai à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 13, qui est important puisqu'il évoque également la participation politique aux affaires publiques de manière générale. Mais c'est également un article qui renvoie aux modalités avec lesquelles les femmes pourraient accéder à des postes de décision. Nous avons également, à travers cet article 13, qui renvoie au fait que tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays. Tous les citoyens ont également le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Le texte le plus significatif est le protocole de Maputo, protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits des femmes, à travers son article 2, qui évoque le principe général de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Il est important également de revenir à un autre article, il s'agit de l'article 9 du protocole de Maputo, et les États doivent assurer cette représentation, cette participation des femmes à tous les niveaux de la prise de décision. Tout le dispositif conventionnel politique de l'Union africaine et de l'Afrique est en faveur d'une émancipation des femmes et de leur représentation dans les postes décisionnels.
Voilà, donc ça c'est un petit exposé, l'extrait d'un petit exposé de la juriste professeure de droit, pardon, Maya Salifadel, algérienne. Alors Mariam, moi je vais vous demander pourquoi finalement vous demandez les 50%, mais vous êtes 52% de femmes en Guinée, alors pourquoi vous demandez pas 52%? Alors je m'explique, hein, mais bon, c'est une petite pointe d'humour. Au niveau des parlements par exemple, on représente le peuple, n'est-ce pas, donc la population. Donc c'est une question sur la place des femmes. On le fait par exemple pour les chefs religieux. Dans plusieurs parlements de pays, des chefs religieux ou coutumiers, ils sont représentés, n'est-ce pas? Ils ont des sièges au parlement. Donc pourquoi on n'adapte pas ça aux femmes finalement? À partir du moment où on a plus de 50% de femmes, notamment en Guinée, pourquoi ne peut-on pas avoir cette véritable représentation? Est-ce que cela ne paraît pas quelque part absurde?
Chère madame, je vais essayer d'être très simple sur cette réponse. Et excusez-moi de prendre un temps solennel, mais vous avez dit qu'il y a une pointe d'humour, mais je vais essayer de rester sérieuse. Nous sommes dans un monde d'hommes. Nous sommes régis par un système d'hommes, donc système patriarcal, où il y a une quête de pouvoir par les femmes, parce que toute cette quête que nous avons est une question de partage de pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas que de pouvoir politique. Je parle de partout où nous sommes dans des espaces, dans nos foyers, dans nos communautés, au travail. Et c'est eux qui doivent lâcher du lest, mais ils ne le veulent pas. On est obligé de commencer avec le niveau zéro. Le niveau de base, c'est ce qui est logique, c'est-à-dire 50-50. Mais vraiment, ce que vous dites est absolument vrai. si on devait parler de proportionnalité, on devrait être plus représenté à la hauteur de la proportion que nous représentons dans nos populations et nos communautés.
Voilà qui est bien dit, Mariam. Alors, on va écouter deux dames à présent, la sociologue sénégalaise Séliba, et ensuite on ira à Lubumbashi, donc en République démocratique du Congo, pour écouter l'écrivaine Nelly Kateng.
C'est vrai que actuellement on a une seule femme candidate à l'élection présidentielle. On en a eu quand même pour la première fois en 2012 où on avait deux femmes. Malheureusement, elles n'ont récolté que 0,31%, qui est très très faible. En 2019, on a eu quatre candidates à l'élection présidentielle, mais elles ont été toutes recalées à cause d'un système de parrainage qui est mis en place pour réduire le nombre de candidats. C'est important que les femmes soient dans la course à l'élection présidentielle. C'est important qu'elles soient là parce qu'encore une fois, on a une république de mâles qui est entre les mains des hommes. Donc, on assiste en tout cas à une confiscation du pouvoir par les hommes. Et ça, c'est lié tout simplement au substrat culturel. Le fait que dans l'imaginaire collectif, on n'a pas l'habitude de voir des femmes diriger. Donc ça, c'est construit dans cet imaginaire collectif. Et c'est important de le déconstruire. On le déconstruit par le biais des programmes qui sont mis en place par l'éducation, par la communication. Au niveau familial, il faut qu'on puisse changer cet imaginaire qui tourne autour de l'homme, qui fait que malheureusement, on a cette république des mâles. Et que aussi, pour nos pays, c'est important que la question de l'égalité soit un indicateur de la gouvernance démocratique de nos pays. C'est important.
Je pense que la plupart des femmes ne sont pas encouragées dans notre milieu, surtout par les gouvernements. Et ça ne commence pas avec le gouvernement. C'est un problème culturel. Il y a des stéréotypes et des préjugés qui font en sorte que d'abord les femmes puissent rester en arrière dans les domaines politiques. Ce qui fait que lorsque on commence à monter les niveaux, les femmes sont peu nombreuses. Par exemple, je vais dire, dans nos familles, on n'encourage pas les familles aux études. S'il faut accélérer les rythmes, il faudrait d'abord que les femmes puissent, dès le bas âge, aller à l'école au même titre que les garçons. Qu'on puisse donner aux filles et aux garçons la même chance.
Voilà, donc c'était Nelly Kateng qui est à Lubumbashi en RDC et juste avant Séliba, la féministe sénégalaise hein, qui parle de confiscation du pouvoir par les hommes. Alors Mariam Tendou Camara, est-ce que vous avez eu finalement une réponse du gouvernement par rapport à votre demande sur la pleine parité?
Nous n'avons pas eu de réponse officielle. Et nous n'en attendions pas une officiellement. Nous étions dans notre rôle de société civile. Nous étions dans notre rôle de corporation féminine et féministe qui réclame leur droit à la parole, leur droit à une représentation paritaire. Donc nous sommes parfaitement conscientes que nous faisons appel. Et nous l'avons fait avec beaucoup, je pense, d'élégance. Hein. Nous ne sommes pas dans la confrontation, nous ne sommes pas dans toutes ces choses. Par contre, nous pensons que les voix des femmes ont été trop longtemps retranchés dans les sous-sols, dans l'espace public, et que donc justement, c'était peut-être une première pour beaucoup dans nos populations d'entendre des femmes réclamer haut et fort 50%. Et pourtant, nous le faisons depuis 2019.
Alors Mariam, restez avec nous. On retourne en République démocratique du Congo, à Goma, très exactement dans le Nord Kivu, pour écouter l'experte en développement, Marie Desanges Lumo.
Politique d'abord, c'est un domaine de la vie sociale qui a ses réalités, qui a ses règles, qui a ses exigences. Et une de ces règles consiste dans le fait, pour les personnes qui s'y engagent, d'être passionnées à servir le peuple à travers ce moyen, être suffisamment préparées, avoir suffisamment de ressources et enfin être vraiment déterminées à contribuer au développement des sociétés à travers ce moyen. Ce qu'on observe concernant les femmes, c'est que peu veulent s'y engager en RDC, particulièrement à l'Est, à part que ces derniers temps, il y a quand même eu un petit changement. Et celles qui embrassent le processus n'y sont pas suffisamment préparées et n'ont pas suffisamment de ressources. Vous allez réaliser que la plupart des femmes, en tout cas quand je regarde même le processus passé, dépendaient des partis politiques, même pour battre campagne, n'étaient pas suffisamment autonomes dans le sens de cette participation politique. Et ça a été un grand frein pour beaucoup des femmes.
C'était Marie Desanges, donc à Goma en RDC. Puisqu'on est en République démocratique du Congo, on y reste. Cette fois-ci, on rejoint Alpha Wambuyu.
La parité elle-même d'abord n'a pas encore eu ses racines comme telle. Et c'est ce qui fait parfois dans certains pays que les femmes soient vraiment moins nombreuses. Mais je pense qu'aux jours à venir, comme maintenant la femme s'est réveillée comme telle, et comme elle a compris maintenant ce qu'on appelle la parité, et je pense que nous en aurons vraiment. Mais il y a toujours des problèmes que nous devons identifier. Voilà, parce que les hommes politiques parfois aussi sont animés de mauvaise foi. Et surtout aussi les intimidations, la stigmatisation et les harcèlements, ainsi de suite. Ce sont aussi les facteurs qui freinent vraiment cet équilibre, voilà, entre l'homme et la femme dans les partages de certains postes.
Un auditeur de VOA Afrique en République démocratique du Congo, Alpha Wambuyu, qui pense finalement, dit-il, que les femmes se sont réveillées. Alors Mariam Tendou Camara, vous êtes au Sénégal. Voilà, on a terminé la campagne électorale. On est juste avant les élections, l'élection présidentielle à l'heure où nous parlons. Quel est votre regard tout d'abord sur la campagne, en tout cas le processus électoral, on va dire, au Sénégal, surtout le fait qu'il y ait une seule candidate. Pourquoi si peu de candidates aux élections présidentielles en Afrique francophone ?
Alors, le cas particulier du Sénégal, cette fois-ci, était vraiment assez particulier. Vous avez bien suivi qu'il y a eu des étapes, et depuis presque, je dirais, 2 ans ou 3 ans, il y a vraiment une crise qui a atteint son paroxysme il y a 2-3 mois. Donc, vous avez bien compris que c'était très compliqué. Sinon, il y a des poids lourds féminins dans l'espace politique. Je peux citer, par exemple, parmi celles qui se sont exercées au processus de parrainage, Aminata Touré, ancienne première ministre, ancienne ministre de la Justice, qui a été directrice de campagne pour le président actuel, etc. Donc il y a vraiment un poids lourd qui a été éliminé suite à ce système de parrainage. Alors nous avons effectivement une jeune dame très brave, très courageuse, qui sort du secteur privé, qui est toute jeune en politique, presque novice si on peut le dire. Et pour moi, je pense que c'est très important que les femmes continuent à avoir ce courage, que celles qui arrivent à se hisser à ce stade de compétition, qu'elles puissent exercer justement leur capacité à prouver, à convaincre, et que les femmes apprennent à faire confiance aussi à d'autres femmes, surtout celles qui sont en train de concourir dans des consultations nationales comme les présidentielles, les législatives aussi et les communales. Donc c'est une très bonne chose, mais c'est vrai que vous avez vu, l'arène est impitoyable pour les femmes, et encore plus impitoyable déjà pour tout le monde, mais pour les femmes il y a un degré de sévérité en termes de critique, en termes de passage à la loupe qui ne laisse pas envie, qui ne donne pas envie à la plupart des femmes de se lancer.
Alors restez avec nous Mariam, on va faire un petit tour en République centrafricaine pour écouter la réflexion de la politicienne Antoinette Montaigne.
Plusieurs choses peuvent être envisagées, mais surtout quelques priorités à considérer. D'abord, la volonté politique des États et donc des gouvernants a pesé dans cette transformation et changement de cap. Si cet objectif est impulsé avec volonté de changer effectivement la donne, une telle aspiration produira nécessairement l'accélération et se conformera aux lois parité du genre déjà en vigueur dans de nombreux pays. Il y a aussi l'ambition des femmes elles-mêmes à se faire une véritable place dans les instances de décision en se donnant tous les moyens pour y parvenir. On peut aussi penser à la nécessité d'un débat général sur le rôle des femmes dans la société en lien avec les pesanteurs socioculturelles persistantes qu'il faut absolument identifier et dépasser. Enfin, on peut penser à des programmes issus de politiques publiques vigoureuses pour accorder un quota plus représentatif des femmes aux instances de décision et pourquoi pas envisager la sanction de la non-application des lois parité du genre qui sont déjà en vigueur et qui ne sont pas suffisamment mises en avant et promues dans les politiques publiques au moment où il y a des opportunités de désir des femmes et de leur accorder toute leur place dans les instances de décision.
Voilà, c'était une suggestion d'Antoinette Montaigne en République centrafricaine. On retourne en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, à Ouagadougou, pour écouter un auditeur de VO Afrique, c'est Charles Bazema.
La femme ne croit pas à elle. Elle n'arrive pas à se départir de cette complexe d'infériorité. Même à travers vos émissions interactives, elles sont combien ces femmes-là qui interviennent pour pouvoir débattre des problèmes de la société, des problèmes qui minent notre monde. Et je crois que c'est elles aussi qui sont la solution à leurs propres problèmes. Quand les femmes vont décider de se battre pour leurs droits, vous allez voir qu'on ne va plus venir sur ce problème de parité, de la sous-représentative des femmes dans nos institutions. Il y a des femmes combattantes, mais elles sont combien ?
Mariam Tendou Camara, est-ce que selon vous, les décisionnaires ont vraiment la volonté d'accélérer les réformes de représentation équilibrée des genres en politique ?
Alors, je pense que de façon individuelle, vous pouvez trouver des personnes qui ont tout de même une conscience, une compréhension de ce concept et cette notion de diversité, d'inclusion, de représentativité. J'en ai rencontré et j'en connais. Mais je pense que le système mis en place, l'écosystème et toute la machinerie, si je peux dire de cette manière, de l'administration publique n'est pas du tout... c'est un système hostile à ce que les femmes puissent être hissées de façon égalitaire et de façon compétitive avec les hommes dans les mêmes espaces et sphères de décision. Les systèmes que nous avons sont majoritairement minés par des hommes et ce sont des hommes qui ont des biais qui sont absolument construits sur toute une vie. Ce sont des adultes. Il faudrait vraiment, je dirais presque une sorte d'ouragan, de tempête pour pouvoir vraiment changer tout cela. Par contre, je pense que ce que la dame tout à l'heure a dit était absolument vrai. Je crois que les plus courageuses doivent se donner tous les moyens parce qu'on a vu des percées quand même. On a quelques exemples. On a aujourd'hui une présidente en Tanzanie. On a eu quand même la première femme élue et réélue deux fois, hein, là, ces deux mandats.
Oui, merci beaucoup, Mariam. Effectivement, on nous cite très souvent, effectivement, ces exemples largement minoritaires. On va dire que c'est mieux que rien. On va terminer très rapidement sur une réflexion de la juriste tchadienne Thérèse Mekombé.
On ne devrait pas parler de la représentation de la femme du côté uniquement féminin. Je pense que c'est un problème qui doit concerner toute la population, qui doit concerner et le politique et les citoyens, pour que la lutte des femmes pour accéder au poste de décision puisse être accompagnée de tous côtés. Dans certains pays, par exemple comme le Tchad, nous avons une loi qui accorde 30% des femmes dans les postes électifs et les postes nominatifs. Je pense que nous avons voulu ce processus-là pour arriver à la parité. Parce que la parité, dans toutes nos constitutions, il est dit que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi et ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et donc, c'est juste parce que cette parité-là dont on parle, qui est écrite dans la Constitution, ne sont pas respectées. C'est un long processus qui ne sont pas respectés. Et c'est pour cela que les lois sur le quota accordé aux femmes ont été adoptées dans beaucoup de nos pays. Pour que la participation de la femme soit effective, il faudrait également que les femmes elles-mêmes sachent ce qu'elles veulent, qu'elles aillent à la recherche de l'information et qu'elles osent également débattre de ces questions, qu'elles osent également être solidaires entre elles-mêmes d'abord pour soutenir une de leurs qui voudrait vraiment accéder à la magistrature suprême, comme le cas au Sénégal. Il y a eu également d'autres exemples en RDC, au Gabon par exemple. Et si on arrive dans les élections à voir que la candidature d'une femme n'arrive pas à acquérir 10% des voix, il y a un problème. Les politiques doivent savoir qu'on ne peut pas développer un pays sans la participation de la femme. Et les femmes également, de leur côté, doivent mettre de côté leur ego pour dire qu'une femme est là, nous devons la soutenir pour que si elle accède à la magistrature, elle accède à un poste de responsabilité, elle puisse parler des femmes. Elle puisse vraiment faire un plaidoyer pour la question de la femme.
C'était la réflexion de la juriste tchadienne Thérèse Mekombé. Mariam Tendou Camara, on arrive au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup vraiment pour votre participation. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du GRIF, le groupe de réflexion et d'influence des femmes. C'était Nathalie Barge avec vous à la production, Joselle Morissin. Restez avec nous sur VO Afrique pour la suite de nos programmes. Bonne soirée et très bon courage.